autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation, à quelques jours de l'ouverture du Festival international de la BD d'Angoulême, en compagnie de deux auteurs de bande dessinée pas tout à fait comme les autres, qui nous entraînent en bulle et en planche dans le secret des labos et jusque dans la combi de Thomas Pesquet. Juste pour rire, mais pas seulement, pour mourir moins bête, titre de la géniale série désormais adaptée en vidéo de Marion Montaigne, deux fois prix du public à Angoulême et pour cause. Personne ne résiste à son coup de crayon et à son humour trash, surtout quand il s'agit de faire passer le meilleur, mais aussi le pire de la recherche. Dans le secret des labos, c'est le titre du dernier album de Jean-Yves Duhou, auteur, dessinateur et reporter scientifique en bande dessinée. Autour de la question « Pourquoi et comment faire des bulles de science ?» Bienvenue pour mourir un peu moins bête.
Tu dois les prix Nobel et les savants. Qui ferait très sûr voyager dans le temps. Arbore sa pilosité suppucale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Qui contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache.
Bonjour Marion Montaigne.
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est vous, le professeur Moustache. Dans vos dessins, il a des seins et une moustache. Et vous n'en avez pas de moustache, j'entends. Et dans l'adaptation vidéo sur Arte qu'on vient d'entendre, enfin on vient d'entendre l'indicatif de « tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même », le professeur Moustache a la voix de François Morel, ce qui n'est pas mal non plus. Marion Montaigne, il faut dire que vous êtes l'auteur auteur de bande dessinée, scénariste, illustratrice la plus renommée de l'Hexagone, on peut le dire comme ça, ou presque. Je vous vois aussi des grands yeux, mais enfin c'est pas faux. Tout a commencé par votre blog « Tu mourras moins bête », désormais décliné donc en vidéo, hein, que vous avez adapté vous-même, hilarante et scientifique sur Arte, et puis en album, le cinquième tome de « Tu mourras moins bête » vient de paraître aux éditions Delcourt. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est croustillant et qu'il ouvre des questions absolument existentielles sur la paresse des insectes, le désir au féminin ou les super pouvoirs du blob. Où trouvez-vous votre inspiration, Marion Montaigne ?
En matière scientifique, moi je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire parce que les chercheurs, ils investissent tous les domaines et ça n'arrête jamais, en fait, c'est sans fin. Donc en fait, dès que vous commencez à mettre le nez dedans, il suffit que... Moi par exemple, je vais voir régulièrement sur des sites qui référencent des recherches, des thèses et donc vous trouvez absolument tout.
La science la plus improbable, à la science la plus trash.
À la plus sérieuse et la plus... austère, mais des fois vous trouvez des petites pépites absolument marrantes sur des chercheurs qui vont passer des années à étudier la courbure des cils, par exemple, sur qu'en fait vos cils ne bloquent pas la poussière, mais elles dévient le flux. Et moi, c'est ce genre d'infos, ça me rend complètement folle.
Les infos qui vous rendent folle sont des infos, on l'a dit, alors sérieuses, trash, vous les rendez rigolotes, parfois même c'est un peu limite, hein, un peu limite sexuelle aussi, ça
oui,
vous plaît bien.
Hein. On y va franco, parce que on est là pour se détendre, enfin on est là pour en rigoler, aussi bien la maladie que la mort. Tout est... En fait, comme moi en dessin, tout est possible et que c'est pas grave. C'est-à-dire que le prof, il peut être aussi bien une bactérie qu'un dinosaure, tout est possible et on utilise tout ce champ pour investir n'importe quelle recherche. C'est un cours de récré, quoi.
C'est ça, un cours de récré dans lequel vous secouez tous les cocotiers sans aucune hésitation. Hein, Jean-Yves Duhou, alors bonjour. Jean-Yves Duhou,
bonjour.
Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'abîme votre nom. Jean-Yves Duhou, je suis ravie de vous avoir avec nous en direct aussi. Alors vous, c'est dans le secret des labos que vous nous entraînez dans ce super album cartonné, relié, publié chez Dupuis pour les 80 ans du CNRS. Il faut dire que le dessinateur et auteur de BD scientifique que vous êtes est une sorte, excusez-moi, de Tintin reporter. Carnet et crayon en main, vous faites le tour des labos depuis plus de 10 ans, in situ, sur la paillasse, avec les chercheurs, pour votre rubrique d'abord Le Labo, dans le journal Spirou. L'idée, Jean-Yves Duhou, c'est de donner à voir le quotidien des chercheurs et leurs travaux, souvent complexes, in situ, et de donner à voir véritablement, parce que vous dessinez aussi les machines avec lesquelles et sur lesquelles ils travaillent.
Oui, c'est exactement ça. C'est une forme de visite. À la fois, quand je découvre moi-même le laboratoire, je permets de je le fais découvrir au lecteur juste après. Je ne sais pas forcément de quoi va parler le domaine de recherche que je vais découvrir. Et je mets en scène à la fois les machines incroyables qu'on voit dans les labos, le domaine de recherche, les gens qui travaillent dans ce laboratoire, le site lui-même. C'est-à-dire que c'est mis en scène d'une manière où on puisse avoir accès à finalement à quoi ressemble la recherche. C'est des gens, des êtres humains dans des bureaux, dans des caves incroyables.
Mais dessiné par vous, avec de l'humour aussi, évidemment, parce qu'on n'imagine pas ça sans humour. Comment vous y allez dans ces laboratoires? Vous avez un crayon, un carnet, un appareil photo aussi, je crois, hein?
Un appareil photo, oui, parce que je ne m'arrête jamais longtemps pour faire des dessins sur place, vu que quand on rencontre des chercheurs, ils sont tellement enthousiastes qu'ils parlent sans arrêt pendant une demi-journée, une journée entière de visite. Donc il faut suivre et être présent
C'est assez prenant.
À la rencontre,
c'est extrêmement prenant. Et puis il faut trier après les informations,
voilà,
j'imagine.
Ça c'est dans un deuxième temps, d'accord, le tri. Et sur place, je prends des notes, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de photos, parfois un petit morceau de croquis dans un coin de cahier, mais assez succinct.
Et vous vous êtes d'ailleurs, tous les deux, Marion et Jean-Yves, rencontrés plusieurs fois dans des laboratoires. Vous avez partagé certaines visites, mais je crois que vous n'en retirez pas les mêmes choses. Vous n'avez pas la même manière de travailler.
Ça s'est produit qu'on visite Jean-Yves. Des laboratoires ensemble, une fois ou deux, assez rarement. Sinon, il y a sans doute pas mal de laboratoires qu'on a vus à différents moments. Pas au même moment.
Moi, je me souviens de l'ESPCI où on était allés ensemble et Jean-Yves, lui, focalisait sur une machine qui faisait des ondes dans l'eau. Et moi, je faisais, mais j'arriverai jamais à expliquer ce que fait cet engin. Et après, j'ai discuté d'autres choses avec le chercheur, mais Jean-Yves lui fait, je dois faire cette machine, parce que graphiquement, je pense qu'il y avait quelque chose qui te plaisait.
Alors que vous, Marion, c'est plus à discuter, au fond, avec les chercheurs et prendre un peu tout ce qu'ils disent et en faire votre sauce et votre caricature aussi, on peut le dire.
Oui, et puis surtout, j'essaie de dire, alors comment déjà expliquer ce qu'on voit et aussi de tirer la ficelle, c'est d'essayer de dire, bon, alors si cette machine, est-ce qu'on peut l'appliquer à autre chose, si on va jusqu'au bout de la réflexion, est-ce que dans le futur ça fera comme ça? Et celle-là, bah non, je voyais pas trop, mais ça m'a beaucoup plu de lire ensuite ce qu'on a fait Jean-Yves.
Et oui, justement, oui, la manière de procéder n'était pas forcément la même. C'est effectivement, comme l'a dit Marion, le côté visuel graphique qui va m'inspirer tout de suite. Parfois, ça m'est arrivé de tomber sur une installation, une machine, je sais pas à quoi ça sert. Mais je sais que je vais la dessiner et je sais que je vais parler de ce qu'on fait avec. Ça peut être un point de départ, pas tout le temps. Et parfois, en l'occurrence...
On va le voir tout de suite, hein, autour de la question pourquoi et comment faire des bulles de science à la radio. Justement, c'est pas évident. Mais je vous propose, Jean-Yves Duhaut, d'écouter une de vos planches, un de vos épisodes dans Le secret des labos, mis en onde par Hugo Violas, qui a choisi un extrait de l'acoustique à l'opéra, extrait de votre album, dans Le secret des labos, qu'on peut donc aussi lire avec les oreilles sur RFI.
Les décors, les matériaux utilisés, tout est conçu pour être réfléchissant, pour que le son rebondisse dessus. Dans un théâtre, ce qui prime, c'est l'acoustique et la vision aussi, bien sûr. 2700 personnes peuvent remplir cette salle. Tout le monde doit pouvoir entendre l'orchestre, les chanteurs, sans micro, sans amplification électrique. L'acoustique d'une salle, c'est mystérieux. On n'en connaît pas encore tous les principes. Les acousticiens t'expliqueront ça.
La salle de concert, ça date de la Renaissance, vers 1500 à peu près. Avant, les musiciens jouaient dehors. Du coup, la recherche du son des instruments n'était pas du tout la même. Pour les salles de concert, on a commencé à penser différemment les instruments, à les équilibrer. La musique, le son, mettent en vibration l'air de la salle, un peu comme les rides sur l'eau quand on jette un caillou. En fait, on n'entend pas un seul son, mais plusieurs. Le son direct, celui qui va directement de la voix à l'auditeur. Le son réfléchi sur les parois qui revient vers l'auditeur après une réflexion. Et le son réverbéré, comme un effet d'écho qui arrive en dernier. À l'Opéra Bastille, toutes les surfaces sont réfléchissantes. Les balcons, les loges, les plafonds. Dans une salle d'opéra, il est crucial de doser le son direct et les sons réverbérés. Le son doit être clair, les paroles intelligibles et avoir de l'ampleur. Dans une église, il y a une absence de son direct et une grande importance du son réverbéré. Dans une église, le son englobe l'auditeur, se trouve partout, on ne sait pas d'où il vient. Dans un théâtre, il faut faire le contraire.
Les aigus et les graves ne se déplacent pas de la même façon. On dit que les aigus sont des flèches tranchantes et qu'ils sont très directifs. Les graves sont élastiques, ronds et se propagent plus loin. Le plus difficile à faire entendre dans un orchestre, ce sont les médiums.
L'acoustique à l'opéra, je ne sais pas si vous vous êtes reconnu, Jean-Yves Duhau, ou si vous avez reconnu vos planches. En tout cas, là, on a le son et la musique. On n'a malheureusement pas tout à fait l'ambiance du dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai reconnu dans le dessin, et ça, on ne l'entend pas à la radio. Il y avait, je crois, un genre d'Astérix dans les aigus, Obélix dans les graves, et puis le bar d'Assurance Tourix, évidemment, fâché dans les médiums, hein, pour redonner un peu l'ambiance.
Oui, voilà, je ne me prive pas de petites références de bandes dessinées, d'éléments graphiques que tout le monde reconnaît, que ça soit l'univers d'Astérix ou d'autres héros de bande dessinée ou du cinéma.
Et vous rendez finalement en dessin, parce que là, nous, évidemment, si on a choisi l'acoustique, c'est parce que c'était le plus facile à illustrer en radio, mais vous rendez en dessin véritablement le quotidien des laboratoires de chaque discipline. Comment est-ce qu'on fait pour rendre justement, alors, à la fois digeste, mais aussi un peu drôle, malicieux, humoristique, des sujets qui sont costauds, parce qu'ils sont tous costauds quand même, les sujets de science. Hein. C'est vraiment la condition sine qua non que de le rendre humoristique. À ce sujet, j'ai une nouvelle question pour vous deux, Marion et Jean-Yves, soulevée par un autre formidable passeur de science et de science-fiction que vous connaissez bien, l'astrophysicien Roland Lehoucq, qui n'a pas son pareil, lui, pour faire passer la science à travers Star Wars ou Alien. On l'écoute.
Comment on doit s'y prendre pour que ça ne soit pas une BD pédagogique? Parce qu'une BD pédagogique, elle peut avoir un intérêt pédagogique, mais du coup, c'est plus tout à fait une BD, en fait. Donc, comment on fait pour garder le média BD avec son intérêt, sa narration et sa force évocatrice, tout en faisant passer des messages scientifiques, donc en ayant une volonté didactique ou pédagogique, mais que ça se voit pas?
Comment on fait, Jean-Yves Duhau?
Je pense que ce que veut dire Roland Lehoucq quand il parle d'une, il dit c'est pas tout à fait une BD. La dimension d'humour est souvent, la plupart du temps, on va dire, accolée à la bande dessinée, même si c'est pas une règle absolue évidemment. Mais c'est pour ça que vous parliez d'humour. L'humour est extrêmement important et présent pour faire passer des idées et pour les dédramatiser quand elles sont compliquées. Pour l'acoustique, c'est exactement, c'est très présent dans cette histoire, mais dans un peu toutes.
C'est pour rendre plus léger aussi, pour qu'on n'ait pas peur. Je sais que, Marion, il y a ça aussi quand même dans la manière dont vous traitez ces sujets scientifiques. Alors évidemment avec beaucoup d'humour, mais aussi pour nous dire on peut y aller. Enfin, ça nous intéresse tous et on peut comprendre. On n'a pas besoin d'être chercheur ou scientifique ou barder de diplôme en maths ou en physique pour comprendre.
Bah, c'est un peu pour désacraliser. Moi, j'avais un peu un complexe. Je n'ai pas pu faire de science. Voilà, j'ai fait de l'art, mais ça m'a plu. Mais je trouvais ça très, très frustrant de me dire il y a des chercheurs qui découvrent des choses absolument incroyables sur l'univers, la santé, le corps. Et moi, j'y ai pas accès parce que j'ai pas fait bac plus 25. Donc, j'ai une sorte de frustration. J'ai envie que le lecteur, on lui raconte la science comme si c'était un ami qui lui parlait dans un bar, un ami chercheur qui lui dit, bah écoute, et il lui donne des exemples de sa vie quotidienne. C'est ce que Lehoucq, il fait référence à ça. C'est essayer de faire un pont entre la vie du lecteur, parce qu'il y a de la science dans sa vie, et des sujets très, très, très techniques. Aborder directement comme ça de la génétique ou de la physique quantique, c'est assez dur, mais lui dire, voilà, le film que tu as vu, tu vois, ça se passe comme ça, ou quand tu tombes malade comme ça, quand tu fais ça, etc. Créer des liens, soit avec la pop culture, soit avec sa vie.
Et comment est-ce que vous choisissez justement vos sujets? Là, j'ai posé la question à chacun, mais je commence par vous, Marion. Alors, je sais que les animaux sont quand même source, le vivant en général est quand même source d'inspiration, mais pas seulement, vous traitez aussi, oui, du blob, de la génétique, de cyber...
Oui, j'ai mes petites préférences parce que c'est rigolo de dessiner du biologique, mais non, la difficulté, c'est, je sais que j'ai plus de mal à faire de la physique quantique, etc., parce que vous ne savez pas quel est le niveau du lecteur. Souvent, il faut résumer ou récapituler des choses. Qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce qu'une molécule? Etc. etc. Moi, après, je choisis des trucs qui me questionnent, en fait. Soit j'achète des livres sur des sujets qui m'intéressent, soit des fois je regarde des films et je me dis mais là il devrait être en hypothermie. famille, là, il ne devrait pas survivre, etc. Et après, je vais me documenter.
Et par exemple, la paresse des insectes, les insectes très poilus. Enfin, là, dans le dernier, le tome 5, il y a la paresse des insectes très poilus.
Là, c'est, j'avais vu des articles là-dessus. On s'est rendu compte qu'une bonne moitié d'une fourmilière ne fait rien, est spécialisée dans rien. Donc, c'était très intéressant. Ils ont suivi des fourmis, ils se sont rendu compte que, contrairement à ce que dit l'humain, qui aime bien culpabiliser ses pairs en disant « Regardez, comme les abeilles, elles travaillent, les fourmis, elles travaillent. Ben » En fait, il y en a une partie de la population qui elle est spécialisée dans le rien. Donc, c'est très intéressant aussi, philosophiquement, ce qu'on projette sur ces animaux. Après, moi, des fois, oui, ben, c'est ce que je vous disais, je tombe sur des recherches avec des chercheurs qui étudient les poils des insectes. Parce que les insectes, c'est très, très poilu, mais leur problème, c'est qu'ils se ramassent énormément de poussière. Ça pèse très lourd. Un moustique a une goutte même pas un demi-millimètre d'eau dans ses poils, c'est une catastrophe. C'est comme si vous aviez une tonne sur vos épaules, donc pour son vol, c'est très dommage. Et bien, c'est étudié. En fait, il se brosse et ça fait une sorte de tremplin à poussière quand il se brosse à rebrousse-poil et il s'en débarrasse. Enfin,
pour une dessinatrice, c'est pas mal, hein, parce que franchement, c'est assez génial. Jean-Yves Duhau, alors vous choisissez les labos que vous allez voir et ceux ensuite que vous voulez dessiner, vous le savez à l'avance. Comment vous choisissez ? Il n'y a pas que cette BD-là que vous faites, vous en faites d'autres aussi, mais comment vous choisissez vos sujets ?
Ça s'est beaucoup passé par la rencontre et un réseau de connaissances. En rencontrant des scientifiques, ils m'ont tout de suite parlé, outre de leur domaine de recherche, de « Tiens, j'ai un ami qui travaille dans tel domaine, est-ce que ça peut t'intéresser ?» ou « Tel autre domaine qui n'a rien à voir. » Alors, je passais de la biologie des animaux avec une animalerie au sous-sol pour étudier le cerveau des poissons à laboratoire qui allait étudier comment réparer des œuvres d'art anciennes avec un accélérateur de particules. Et ensuite, on passait à un tout autre sujet. Mais les scientifiques sont un réseau, ils ont beaucoup de connaissances, d'amis dans tout ce domaine-là. J'ai fonctionné comme ça.
Et de l'un, on passe à l'autre, hein, c'est ça.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai exploré des domaines extrêmement différents. Sans complexe, en passant d'un domaine à l'autre.
Oui, sans complexe, en fait. Parce qu'au fond, les chercheurs vous expliquent ce qu'ils font et vous prenez ce que vous comprenez et vous travaillez dessus ensuite. Mais il faut quand même bien le comprendre pour le faire passer ensuite et en plus le dessiner et en plus, effectivement, avec légèreté.
Oui, et ça, c'est beaucoup passé par la rencontre avec des scientifiques. On parlait d'humour tout à l'heure. Justement, les bandes dessinées pédagogiques, elles peuvent avoir un côté... On peut penser que c'est pas très drôle, il faut un peu s'accrocher pour le lire. On va apprendre des choses, donc on va un petit peu s'ennuyer. En fait, les chercheurs et les scientifiques, c'est des gens, la plupart d'entre eux, ils ont beaucoup d'humour. Ils sont très intéressés par justement des médiums comme la bande dessinée qui va permettre de parler de leur domaine dans des publications qui ne sont pas des publications spécialisées pour scientifiques, pour le grand public. Et ça, ils adorent. Au début, je ne le savais pas. Je me disais comment ils vont accueillir quelqu'un qui fait de la bande dessinée pour le journal de Spirou, pour d'autres journaux, d'autres supports. Et en fait...
Pour le journal de Spirou, ça marchait très bien.
Oui, parce que c'est grand public, c'est tout public, c'est très connu. Ils le lisaient quand ils étaient petits. Enfin, c'est une carte de visite très connue. Et tout de suite, ils ont, la plupart d'entre eux, quasiment sans exception, ils ont manifesté beaucoup d'intérêt pour cette démarche-là.
Alors, je ne sais pas si ça aurait pu passer dans le journal de Spirou. Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a certaines pages dans votre BD, Marion Montaigne, notamment, où vous intéressez au sexe masculin, au sexe féminin, qui sont extra. Mais je ne sais pas si ça aurait pu passer pour les moins de... Allez, pour les mineurs, disons, voilà.
Oh, hein. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Oh si, pourquoi pas. Ça dépend. Moi, j'avoue, je ne réfléchis
le
pas trop.
Le pouvoir érecteur...
C'est de la mécanique. C'est très, très mécanique. Non, après, la question, c'est comment le représente et comment on en parle. Moi, après, j'avais des parents assez cool, mais après, ça dépend des parents. Et en plus, ils sont dessinés assez mignons. Mais
mignon, vos sexes. Je suis d'accord, mignons. Mais enfin, ce sont des sexes, de toute façon.
Oui, tout à fait. Mais on peut tout expliquer en bande dessinée. C'est ça qui est génial, de manière pas trop choisie. Enfin, choisie de manière un peu soft.
Avec de l'humour.
Avec de l'humour. Et, parce que c'est pas grave, en fait. C'est ça, le truc. On peut vraiment parler tout. Mais,
Ben oui, en fait, c'est pas grave. Parce que tu mourras moins bête. Mais tu mourras quand même, n'est-ce pas, Marion Montaigne ? Allez, ça c'est à lire pour nos auditeurs, à écouter tout de suite sur RFI. Alors, on va effectivement entendre quelques-unes de ces vidéos hein, tirées de Tu mourras moins bête. Mais juste après être monté par le cheval de feu de Jeanne Chéral. Oui, c'est pour vous, Marion Montaigne, spéciale dédicace. Merci. Parce que nous sommes déchaînés aujourd'hui sur RFI. Et ce ne sont pas vos bandes dessinées, Jean-Yves et Marion, qui vont nous faire redescendre. On écoute Jeanne Chéral, cheval de feu.
Viens par ici, cheval à fumant, viens. tendais du bout des lèvres, allongé sur ma peau de chèvre. Approche un peu, cheval indocile, approche voir ce beau missile. Il fait si chaud dans mon varech que je pourrais te cuire le steak. Viens fouiller le buisson. Cheval fumant, viens dans le giron de maman. À la lumière de mon tison, tu as des airs de grand bison. Approche un peu, cheval puissant, prends le chemin le plus glissant. Ton gouvernail est le dessert, ton rêve, toutes les femmes. Corsaire, entends-tu la clameur qui gronde? Entends-tu le désir du monde qui te supplie d'entrer vainqueur et de monter jusqu'à mon cœur?
Le cheval de feu de Jeanne Chéral sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment faire des bulles de science pour mourir moins bête, n'est-ce pas Marion Montaigne? Avant qu'on écoute une des vidéos de la série que vous avez dessinée et adaptée pour Arte, tout de suite une nouvelle question pour vous, soulevée par une admiratrice qui était récemment notre invitée autour de l'exposition de l'amour au Palais de la Découverte à Paris. C'est la chercheuse en neurosciences et sexologue Aurore Malécaras qui vous interroge. Alors je spécifie après la lecture de la page 86 qui a pour titre « C'est fichu comment un clitoris ?»
Depuis quand avez-vous eu envie de bien représenter le clitoris ?
Votre réponse, Marion Montaigne.
Déjà, il a fallu que des chercheurs se penchent dessus, sinon j'aurais pas su comment le dessiner.
Parce qu'au fond, il y a quelques années, on ne savait absolument pas comment dessiner le sexe féminin.
Et,
oui,
et en fait, c'est très récent. En fait, c'est en me documentant que je me suis rendu compte que c'est que vers 98 qu'une chercheuse s'est dit, il faut vraiment qu'on regarde comment c'est fait, parce qu'elle trouvait qu'il y avait un manque dans les livres d'anatomie. Elle trouvait que lors des opérations, à ce niveau-là, on prenait beaucoup plus de soins dans l'opération des hommes que des femmes. On était un peu violent. Et en fait, c'est vers les années 98 qu'on a vraiment bien analysé le clitoris, notamment dans l'IRM, et on s'est rendu compte que c'était grand, que ça avait une forme de papillon, et que c'était même plus grand que certains organes masculins au repos.
Voilà, vous avez un petit sourire. Effectivement, c'est extrêmement marrant pour une dessinatrice et pour un lecteur ou une lectrice de bande dessinée. Le sexe, l'humour, le trash, c'est un ingrédient
indispensable. Ah, mais c'est super. Ah, je rigole. Je m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas... Mais il y a... En fait, c'est peut-être aussi parce que dans ma scolarité, la science était vraiment très, très valorisée. C'était la matière des grosses tronches. Et moi, je me sentais... Ça m'intéressait, mais j'étais bonne, mais pas hyper le génie, quoi. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de côté, je récupère en disant, tout le monde peut en parler, tout le monde peut critiquer la science, et puis surtout donner envie d'être curieux.
C'est vrai qu'il y a un côté jouissif quand on vous lit, parce qu'on comprend des choses, c'est extrêmement drôle, c'est un peu trash, c'est un peu... Voilà. Mais ça fait pas de mal, effectivement, de dédramatiser.
Oui, puis moi, j'ai pris vraiment plaisir à apprendre des choses, à parler avec des chercheurs, puis je suis hyper contente quand j'apprends un truc, je suis vraiment en joie. C'est quelque chose dans la vie qui me satisfait vraiment beaucoup d'apprendre, d'avoir cherché de l'info, d'avoir recoupé des informations, d'avoir fait ma petite enquête et d'avoir appris quelque chose.
Vous allez mourir moins bête, Marion Montaigne. Il y a des chances quand même.
Longtemps. Peut-être pas génial, mais moins bête peut-être.
Alors je vous propose maintenant, chers amis auditeurs et auditrices, d'écouter justement un épisode de cette série que vous avez vous-même, Marion Montaigne, adapté à la demande d'Arte. Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Série irrésistible donc, qui commence toujours par une question, disons inattendue, parfois un peu trash, posée au professeur Moustache, en l'occurrence à François Morel. On l'écoute.
Bonjour prof. J'adore les vidéos de gens qui se cassent la figure. Il y a moyen d'en faire mon métier ?
Si vous êtes bonne en maths, je vous conseille la biomécanique. Nat, ouvre la moustache cave. Un biomécanicien n'est pas du tout un type qui répare les gens.
Ah, c'est le pot d'échappement de votre mari qui est tout encrassé, ma petite dame. Hein? Ouh, ça va vous coûter une blaine, hein?
Le biomécanicien est une personne bizarre qui étudie comment notre corps bouge, tombe, se blesse, se casse et en quelles circonstances. Comme vous, les zappings spécial chute, ça l'éclate. Ce sont les biomécaniciens qui réalisent les fameux crash tests avec des mannequins. Bardé de capteurs, il donne des indications sur ce que subit chaque segment du corps. Ça alors, la clavicule s'est pris un choc de 90 kilos.
C'est beaucoup pour une clavicule?
Pour le savoir, il faut connaître au préalable ce que peut supporter un vrai corps au niveau de ce segment. Pour ça, il y a trois solutions. La première est de tester sur un animal qui a une clavicule semblable à celle de l'homme, comme le kangourou. Skippy, montre ta clavicule, t'es gentil.
Oh, pauvre kangourou!
Action! La deuxième solution est de tester sur des cadavres, mais ils ont tendance à ne plus trop avoir de tonus. Et les os sont fragiles parce que les morts sont souvent âgés. Alors parfois, le biomécanicien travaille sur du vivant, qui bouge, un corps de sportif par exemple. Imaginez qu'on veuille savoir si une pelouse artificielle est plus lésionnelle qu'une pelouse naturelle, mais sans abîmer 150 footballeurs.
Tada !
Dans ce cas, on remplace leurs grosses cuisses velues par des machines industrielles qui peuvent imiter des milliers de fois un shoot de la jambe. Grâce à ça, on sait que la pelouse artificielle fait bien plus de dégâts que la naturelle. C'est génial, non ?
Je souffre.
Hey, si vous voulez voir des vrais crash tests et comprendre pourquoi faut attacher sa ceinture, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv.
Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.
Ça, c'est sûr. Et sans avoir vu les dessins ni la vidéo, le son a été un petit peu, on va dire, rajouté. Un réalisateur un petit peu forcé sur le son parce qu'on est en radio, Marion Montaigne. Mais est-ce bien raisonnable de parler comme ça de la biomécanique? Enfin, en tout cas, on comprend, hein, ça marche extrêmement bien.
Ah, mais, oui, mais c'est vrai. Les infos sont vraies. En fait, il y a toujours un petit côté hallucinant quand on va dans les labos parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils doivent mettre les mains dans le cambouis. Ils sont comme ça en disant, bon, bah, est-ce que, par exemple, cette voiture, bah, ça blesse? Est-ce que ce siège marche? Est-ce que cette ceinture de sécurité marche? Il ne suffit pas de dire oui, il faut vraiment tester. Et eux, ils sont vraiment, moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils sont vraiment ils sont au pied du mur. Ils font, bah, il va falloir le tester. Et comment on le teste? Et bah, il faut le tester sur des corps, etc. Donc c'est une sorte de ils sont face au dur, quoi. Ils peuvent pas se débiner, donc c'est la réalité. Ils utilisent des cadavres, même des bouts de cadavres. Ils utilisent des fois d'autres éléments comme des mannequins. Et en fait, je mets un peu d'humour dedans parce que finalement c'est un peu surréaliste, en fait. Mais
rien ne vous arrête comme sujet, Marion Montaigne? Est-ce que à vous lire, on se dit bah non, et en fait ça marche et ça fonctionne. Vous poussez le bouchon tellement loin que ça fonctionne, et puis aussi vous soulevez les vraies questions que ça peut soulever chez les chercheurs comme chez nous. Voilà, vous n'évitez aucun sujet qui fâche, hein.
Non, mais en fait quand on regarde, en fait finalement on veut, par exemple là, dans ce cas-là, on veut de la sécurité, on veut que notre vie y ait pas de blessés, il y ait pas de morts, on veut pas d'effets secondaires. Mais vouloir ça, cette vie parfaite sans risque, ça a une derrière, en coulisses, il faut que des gens s'en occupent et se posent vraiment des questions que nous on veut pas voir, en fait. Donc j'aime bien, j'avoue, mettre en avant l'aspect des coulisses qu'on n'a pas très envie de regarder, parce que c'est la réalité, parce que les chercheurs savent pas tout, ils savent pas comment casse un os, tout simplement, quelle force il faut appliquer dessus, et il faut le savoir, parce que si vous voulez survivre dans un accident de voiture, il faut que des gens l'utilisent.
Les coulisses des laboratoires, les coulisses des chercheurs, les coulisses de la science, c'est ça qu'on lit aussi à travers vos bandes dessinées, Jean-Yves Duhaut, et notamment dans Le Secret des Labos. C'est vraiment, il y a le côté coulisses qui est très intéressant et qui permet d'aborder des choses.
Oui, il y a l'environnement de là où ça se passe, et comment... au quotidien, en quelque sorte. C'est quelque chose de technique, des gens qui vont travailler, des machines, et tout ça. Et on fantasme beaucoup là-dessus, et on imagine des tas de choses. En fait, il y a une manière assez simple d'en parler aussi. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous, dans vos rencontres, qu'est-ce qui vous a peut-être fasciné, étonné le plus, Jean-Yves Duhaut ?
Moi, j'ai un penchant naturel à être un peu fasciné par la mécanique. Donc, tout ce qui est machine incroyable et machine infernale, ça, tout de suite, ça m'attire et ça me donne envie d'aller voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait avec, comment ça fonctionne quand c'est... en train de propulser des électrons et d'aller voir le LHC enterré à Genève ou des choses absolument, absolument incroyables. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve la plupart des histoires que je traite sont beaucoup autour de machines.
De grands instruments, de la physique notamment, incroyable. De l'astrophysique, pour mesurer l'infiniment petit comme l'infiniment grand.
Exactement. D'ailleurs, voilà, c'est le labo sur lequel je suis en train de travailler qui mesure les deux infinis, il s'appelle. Et il y a de quoi faire entre les deux, effectivement.
Et ça, mais comment on dessine ? On ne peut pas dessiner l'infini.
Avec la bande dessinée, si. Parce que dans la même case, on peut dessiner une planète grosse comme 200 fois la Terre et à côté de ça, un atome. Et l'un qui parle à l'autre en lui disant « Salut, comment ça va ?» Et on n'a pas de complexe dans la bande dessinée. Les échelles ne nous font pas peur. Voilà, le dessin est très pratique et avec des moyens assez simples.
Et justement, alors effectivement, en bande dessinée, on peut tout se permettre. Et puis, c'est effectivement, ça peut être très réaliste ou très compréhensible hein, pour notre petit cerveau humain. Les BD de vulgarisation scientifique, comme on dit, marchent très très bien. Il y en a beaucoup, excellentes et pour tous les goûts. À ce sujet, je vous propose un nouvel éclairage en forme de question soulevé par Jean-François Marmion. Alors lui, il est psychologue, rédacteur en chef du Cercle Psy, auteur de l'histoire universelle de la connerie, on l'avait évidemment reçu pour cela, et auteur en bande dessinée de Cerveau Comics, le cerveau expliqué en BD, on l'écoute.
Je pense qu'avec la BD, on a beaucoup plus d'opportunités de faire passer des choses compliquées de façon très simple. On voit tout de suite en deux pages ce qui pourrait prendre plusieurs milliers de signes à expliquer de façon plus aride, plus protocolaire, plus codifiée. Il y a beaucoup plus de liberté et une des difficultés, c'est de rester accessible sans trop simplifier. On a toujours des petits scrupules en disant « Oh là là, peut-être que là, je simplifie trop et les scientifiques vont me tomber dessus. » Ou alors, on se dit « Oh là, je suis trop compliqué, les lecteurs vont décrocher. » Je pense que Marion Montaigne est dans le même cas. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais lui poser. Comment établir la frontière entre ce qu'on peut se permettre de simplifier et puis les moments où il ne faut vraiment pas transiger avec la vérité scientifique, quitte à ennuyer le lecteur.
Alors, Marion Montaigne, est-ce que vous avez une réponse ? Comment on fait ?
Oui, c'est pas évident parce qu'en plus, plus je deviens connue, plus on s'attend à ce que je dise pas trop de bêtises. Donc,
c'est quand même une responsabilité. Vous avez reçu deux prix à Angoulême. Non, oui, il y a une responsabilité désormais.
Non, mais oui, mais c'est surtout, oui, moi je me souviens lors d'une thèse, il y avait un des directeurs de thèse qui a dit simplifier, c'est mentir. Alors, j'ai pris pour moi. Mais après, c'est une question. Oui, on simplifie, mais ça dépend à qui on s'adresse. Moi, je m'adresse à des gens à qui peut-être on n'a jamais parlé de science, à qui peut-être ça n'intéresse même pas, à des gens...
Oui, vous ouvrez le champ, effectivement, à des gens qui ne sont pas des scientifiques.
En plus, à la base, c'est un blog. Donc, c'est des gens, ils vont au boulot, ils procrastinent, ils vont sur le blog et là, on leur parle de CRISPR-Cas9, de génétique. Donc, peut-être que jamais ils auraient voulu lire un article là-dessus.
À ce propos, ce CRISPR-Cas9, je me souviens d'une image qui m'a fait mourir de rire. C'est que donc, c'est ce couteau génétique. Et vous utilisez à un moment, un peu comme tout à l'heure, on retrouvait Obélix ou Assurance Tourix chez Jean-Yves Duhaut. Chez vous, on retrouve Karl Lagerfeld avec son accent qui découpe, un petit bout de CRISPR-Cas9 et qui le recoue et qui fait tout lui-même. Et ça marche très bien et on comprend c'est imagé. Ce que c'est.
Mais évidemment, pour un vrai chercheur, pour lui, ça lui sort des yeux parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe à l'échelle.
Non, il n'y a pas les grands ciseaux de Karl Lagerfeld, ça c'est sûr.
Mais pour quelqu'un qui n'est pas généticien, si au moins ça peut lui donner envie après de lire d'autres articles, si après il a envie d'aller dans les bibliographies, c'est juste moi vraiment comme des échelons sur une échelle. C'est vraiment, je dois être dans les premières échelles parce que moi-même au début, quand je voyais CRISPR-Cas9, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est ? Il y a plein d'articles là-dessus. Et c'est un chercheur qui m'a dit, faut que tu l'expliques ce que c'est. Et depuis, ça me fait moins peur. Enfin, je comprends mieux. Et ben, c'est juste des échelons. Donc, simplifier, ça dépend. Si oui, vous êtes un expert thésard, ça va vous choquer que ce soit simplifié. Si c'est quelqu'un à qui on n'a jamais parlé, c'est nécessaire pour avoir le premier prix.
La règle, ça serait quoi? Un peu comme celle que nous, on essaie de s'appliquer autour de la question sur RFI, ne pas dire de choses fausses, c'est-à-dire ne pas... Voilà,
ah oui,
c'est
alors
ça,
y a une nuance, c'est vraiment la règle. Il y a une nuance entre dessiner des petites bactéries avec des jupes, des petits uniformes, ça c'est pas vrai, mais ça permet de comprendre le fonctionnement. Se tromper sur quelques trucs de maths ou de conversion et dire que la Terre est plate ou que je trouve que c'est différentes erreurs. C'est pour ça que moi je mets les bibliographies pour que s'il y a des gens qui veulent corriger, mais je trouve qu'il y a erreur et approximation. Enfin, j'espère.
Qu'est-ce que serait, oui, Jean-Yves Duhaut, la limite? Vous citez d'ailleurs tous les deux, hein, toutes les bibliographies, tous les chercheurs qui ont collaboré. Enfin, on peut aller se renseigner. C'est vraiment une première piste.
Justement, quand un chercheur dit que simplifier, c'est une erreur. Là, je reconnais bien les scientifiques parce que quand ils relisent des pages, chaque fois je leur donnais les esquisses à relire,
ah
les
oui,
pages une fois écrites.
Ah oui, vous lisez dans le secret des labos.
Souvent, ça m'est arrivé qu'on me dise « Ah oui, ça c'est bien, c'est intéressant, mais il faudrait être plus précis. » Et ils envoient une page entière d'un feuillet avec 3000 signes
d'explications
supplémentaires, ce qui est absolument impossible à mettre dans une case de bande dessinée, sinon aucun lecteur ne la lirait.
C'est ça.
Et donc, en fait, à ce moment-là, on peut penser que c'est important de ne pas être scientifique pour faire de la vulgarisation, ce que d'ailleurs beaucoup de scientifiques reconnaissent, parce que justement on a une vision extérieure et on sait arrêter le discours, ne pas le faire durer trop longtemps, parce qu'on est dans justement une approche qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas non plus scientifique, qui est donner envie de découvrir un domaine.
Oui, finalement, avoir un peu de recul et proposer un autre regard aussi là-dessus, un regard de profane, mais qui sait très bien dessiner et raconter des histoires, et qui s'amuse aussi, on l'a compris, en le faisant autour de la question « Pourquoi faire des bulles de science ?» La bande dessinée peut aussi se partager en musique avec Anaëlle Miller sur RFI, bande dessinée.
Moi, j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyot, de Bondy, de Sempé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint, habiter un champi avec des petits hommes bleus et faire tout le temps la teuf avec Gargamel au milieu. Coincé dans les chiottes, le schtroumpf à lunettes et Agnan leur enlever leur binocle pour que Ricky tape dedans. Rejoindre Gaston et se taper un bœuf au bureau, faire une course en patin avec Jules d'en face et Lucien, rendre Prunelle tout rouge au moment où de Messmaker vient signer ses contrats pendant que la Jeanne s'en va en l'air, prendre des cours de chimie avec le comte de Champignac, ou mieux des cours de dessin avec le beau Lebrac, demander à Spirou d'emmener faire un tour en turbo et planter Fantasio et son côté vieillot, jouer au vengeur masqué avec Alceste et Nicolas, se barrer dans les bois et se faire une soirée pyjama avec Sylvain Sylvette, et si le bouillon vient nous faire chier, j'appelle Benoît Brisevert pour lui faire une tête au carré. Moi j'aurais voulu vivre dans les dessins de Margerin, de Peyot, de Bondy, de Sempé, de Franquin, me faire appeler Pépette et rejoindre la bande à Lucien, croiser un petit poussin et tirer sur son joint. Puis je rends visite à Petroni qui recherche ses gamins, je branche Samy et Soda s'ils peuvent lui filer un coup de main. Avec Jérôme K, Jérôme Bloch, on commence l'enquête. Tintin se met sur le coup avec les quatre as et c'est chouette. Puis là, change de décor, je me barre au Far West et je me tape des faillots avec Bloodshell, Capitaine Stark. Quand Lucky Luke arrive, Joe Dalton trépine, juré peste devant Jolly Jumper qui se marre avec Spip et Oscar.
Tous les héros de la bande dessinée dans ce morceau d'Anaëlle Miller sur RFI autour de la question pourquoi faire des bulles de science. Nous sommes en compagnie de Marion Montaigne, le tome 5 de Tu mourras moins bête, peut-être moins bête, mais tu mourras quand même, vient de paraître. Nous sommes également en compagnie de l'auteur et dessinateur de BD scientifique Jean-Yves Duhaut, auteur entre autres de l'album Dans le secret des labos. Alors pourquoi faire des bulles avec des chercheurs? Comment faire de la science avec des faire de la science avec des chercheurs. Non, comment faire de la bande dessinée avec des chercheurs? Mais là, je vous propose d'inverser la proposition. Et comment, quand on est chercheur, et pourquoi travailler avec des artistes, alors qu'ils soient dessinateurs ou photographes? Je vous propose d'inverser donc votre regard et d'écouter cette fois-ci le point de vue d'un chercheur que je ne saurais trop vous conseiller de rencontrer. Là, je me tourne vers vous, Marion Montaigne, car il va sûrement exciter votre imagination. C'est Laurent Chauveau, chercheur plongeur, spécialiste de la coquille Saint-Jacques. Je crois d'ailleurs que la coquille Saint-Jacques, vous en aviez traité, Jean-Yves Duhaut, dans une précédente édition du Secret des Labos. Hein.
Oui, lors de la visite
d'un laboratoire à Brest, en tout cas.
Laboratoire à Roscoff, de biologie alors. Marine.
Voilà, cette fois-ci, c'est à Brest qu'est Laurent Chauveau. Nous l'avions reçu autour de la coquille Saint-Jacques, auquel il a consacré un petit livre génial. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que font les coquilles, archives du climat, sentinelles de l'environnement, archivistes et même musiciennes. Laurent Chauveau les étudie sur tous les continents et jusque sous la glace des pôles. Une mission scientifique qu'il effectue désormais avec un photographe de l'agence Magnum, excusez du peu. Écoutez pourquoi et comment ça a aussi changé sa propre vie de chercheur.
Quand vous faites un trou dans la banquise et que vous vous immergez dans de l'eau à moins de 2 degrés avec un collègue et que vous descendez sous l'eau, vous ouvrez une porte sur un autre monde. Et cet autre monde, il est à la fois sombre et lumineux, il est scintillant, il est tout bleu et surtout, il a des sons que vous ne connaissez pas. Et vous avez ce mélange de lumière et de bruit totalement exotique, c'est la planète Mars fois 1000. Et en fait, quand vous refermez cette porte et vous revenez en surface, et que vous êtes un scientifique dressé à ne pas parler de vos émotions, vous revenez avec un mal-être, un espèce de blues post-mission polaire que j'ai tenté de prévenir avec des artistes. Et c'est la première intention pour contacter Emmanuel Asquette au sein de l'agence Magnum et in fine de partir avec Jean Gomi, le photographe de l'agence Magnum, c'était bien de parler de la beauté absolue des pôles et des émotions, d'accord, vécues par des scientifiques lorsqu'ils cherchent à comprendre comment fonctionne la nature en milieu polaire. Donc c'est d'abord très égoïste. Puis cette idée-là s'est transformée en finalement regardons le même écosystème et est-ce qu'on a le même regard ? Moi j'ai des thermomètres, des capteurs très scientifiques et lui un appareil photo. Finalement deux types d'appareils, c'est-à-dire qu'entre la nature et notre œil ou notre cerveau il y a un appareil, des choses très très similaires et on a développé l'idée de mission au long cours ou de mariage art et science avec Jean Gomi, et on a abouti à quelque chose qui est beaucoup plus construit que l'idée de départ et qui démontre que finalement, avoir une activité artistique associée à une activité scientifique augmente la créativité des scientifiques.
Magnifique comme éclairage de Laurent Chauveau. Vous voulez réagir parce que vous avez vous-même, tous les deux, Jean-Yves Duhaut et Marion Montaigne, rencontré, collaboré avec des chercheurs. Lui, Laurent Chauveau, il dit que c'est même bénéfique à sa propre créativité scientifique.
C'est vrai que ça m'est arrivé de représenter avec un dessin extrêmement simple un concept qu'un chercheur en physique des particules trouvait, lui, très complexe à expliquer. Ça l'avait assez épaté, puis moi j'étais épaté qu'il soit épaté par le fait qu'un dessin tout simple puisse représenter quelque chose dont je ne me doutais pas de la complexité en fait. Et là j'ai pris conscience, il y a eu quelques exemples comme ça, que parfois il peut y avoir une complémentarité. Après c'est des dessins qui vont se retrouver sur les sites internet des labos. Ou des pages entières, assez couramment. Ça s'est produit souvent, effectivement.
Oui, c'est vrai, ça marche dans les deux sens, Marion. Et puis Laurent Chauveau disait aussi qu'en tant que chercheur, il a du mal à exprimer ses émotions. Et que là, la rencontre avec un photographe, un artiste, c'était une manière aussi de faire passer le beau et pas simplement la publication qui va suivre.
Oui, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la médiation des impressions. Puis c'est pas vraiment probablement ce qu'on lui a appris à faire ou ce qu'on leur demande de faire. Moi, je trouve que de toute façon, décloisonner, c'est toujours positif que les métiers se croisent, se rencontrent, que des musiciens travaillent avec des chercheurs, des dessinateurs avec des ingénieurs. Ça permet d'annihiler certains clichés qu'on a sur certains métiers et réciproquement, qu'ils peuvent aussi avoir sur les artistes. Et puis surtout, ça approche d'autres manières manière de voir le monde. Et ça fait des collaborations un peu improbables. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je ferais une BD sur un astronaute. Enfin, je veux dire, moi, avec mon bac plus 2 et des gens qui ont...
Et non seulement vous avez fait une BD avec un astronaute, mais vous avez fait dans la combi de Thomas Pesquet.
On est allé un peu loin, mais...
Vous êtes allé un peu loin, et c'est très étonnant. Votre regard, on va s'arrêter là-dessus, Marion, sur ce, votre regard sur l'astronaute Thomas Pesquet, son quotidien. Alors, c'est complexe, mais ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Enfin, ça nous rassure, nous qui sommes sur Terre.
C'est le regard de l'artiste sur, justement, ce métier. Moi, j'avoue que j'ai trouvé que ce qu'on leur demandait était absolument complètement improbable. Et je rencontrais aussi des entraîneurs qui disaient, mais ils n'avaient pas du tout le regard du héros parfait. Enfin, ils sont très forts, mais ils disaient, mais c'est très, très dur ce qu'on leur demande. C'est horrible. Et donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas non plus... je ne suis pas engagée par l'agence spatiale où j'ai pas je suis un peu indépendante, donc je peux porter un regard un peu de biais qui est un peu le mien, mais après c'est aussi en collaboration, et donc on essaye d'apporter aussi un propos, un angle que peut-être le chercheur ne peut pas apporter parce qu'il a pas les mêmes mots, mais c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas la commande qu'on lui a faite, c'est pas les subventions qu'il a pour le faire.
Alors que finalement, quand on lit dans la combi de Thomas Pesquet, on comprend effectivement le quotidien, mais complètement fou. Ils sont bien plus héroïques qu'on l'imagine. Enfin, c'est complètement fou.
Bah oui,
et ça, on s'en
bizarre.
Rend compte. C'est aussi les questions que chacun d'entre nous se pose. Comment ils font?
Ben, comment il faut. J'ai pas la réponse, je pense que.
Mais vous illustrez, vous le montrez.
Oui, moi, j'ai toujours pas compris comment ils font, mais c'est vrai qu'on s'est. En plus, moi, j'ai eu un rapport de voir aussi comment c'était traité de manière médiatique, où souvent c'était très court. En fait, on s'arrêtait à la mission est incroyable, mais derrière, il n'y avait pas eu le temps. Enfin, moi, ça m'a pris 2 ans pour comprendre comment ça fonctionnait, pour aller voir des entraînements, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est extrêmement impressionnant, c'est des cobayes, donc ils se font électrocuter les jambes pendant des heures ou des choses comme ça, et ça on le sait pas du tout, on garde le point final de tout un roman, c'est le clap de fin, c'était merveilleux, et eux ils portent ça en eux, quand ils nous racontent leur travail, ils font faut se lever à 3h du mat, faut aller accepter ça, et donc c'est le fait d'être dans un processus comme ça, peut-être qu'on a plus de temps, nous on est concentrés à réfléchir à ça, qu'eux ils sont dans le... Ils sont nés dans le guidon et c'est pas ce qu'on leur demande de faire. Donc
vous avez le temps de les écouter, les dessiner. Et puis nous, après, en tant que...
Plus de temps qu'eux, en fait.
Et nous, après, en tant que lecteurs, on a le temps de lire vos BD et de s'y arrêter. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct dans notre studio. Alors, je rappelle donc que le tome 5 de Tu mourras moins bête vient de paraître chez Delcourt. Il est absolument irrésistible. Allure aussi, vous l'avez signalé, juste pour le plaisir de ne pas aller dans l'espace, dans la combi de Thomas Pesquet. Et puis, bien sûr, les vidéos, hein, Tu mourras moins bête, à voir sur internet, une production Arte. Jean-Yves Duhaut, je signale à nos auditeurs et je leur conseille votre bande dessinée parue aux éditions Dupuis à l'occasion des 80 ans du CNRS, Dans le secret des labos, pour mourir moins bête, hein, une fois encore, même si on mourra quand même. Puis je signale aussi aux éditions Delcourt le bestiaire extraordinaire, lui aussi en BD, de Patrick Beau, du site Axolot. Avant de mourir, vous revenez, hein, s'il vous plaît, Marion et Jean-Yves, quand vous voulez, pour continuer à faire de la BD à la radio. Ça aussi, c'est un exploit, finalement. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain sur Mars, carrément, en compagnie de l'exobiologiste André Brac. Autour de la question, pourquoi et comment chercher de la vie sur Mars, émission sidérale et sidérante en perspective, avec Nicolas Benita et Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Surtout, restez curieux, chers amis auditeurs et auditrices, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des infos. Si vous